Alors, quoi de neuf, docteur ?
Notre route est droite, mais la pente est forte.
La NSA espionnait aussi l'Union européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
On dénombre 3 264 500 demandeurs d'emploi.
L'armée a repris le pouvoir.
Quoi de neuf, docteur ?
Je ne suis pas revenu à la mairie depuis 2 ans.
Quoi de neuf, docteur ?
Alors, quoi de neuf, docteur ?
Tout est parfaitement calme dans notre célèbre clinique des Trois Docteurs, située pas loin de la fontaine des Trois Grâces. C'est un lieu de comédie aussi. Si vous les suivez régulièrement sur les ondes divergentes, vous savez qu'ils ont une opinion sur tout et son contraire, et qu'ils nous donnent des remèdes allant de l'homéopathie à la chirurgie sur de nombreux sujets. Mais en ce jour, la simple mouche de l'établissement que je suis ne les voit pas se présenter en tenue d'opération. Les ayant cherchés quelque temps, je les aperçois allongés sur des chaises longues au bord de la piscine, sirotant des boissons prohibées ou fumant tranquillement je ne sais quelle substance. L'air décontracté, ils discutent à voix feutrée du sujet du jour. La paresse. Comme le disait Jerry Rubin, du côté de l'université de Berkeley en Californie à la fin des années 60, travailleurs de tous les pays, unissez-vous et arrêtez de travailler. Ou encore GB, s'en allant à la même époque, prenait un an 01. La paresse serait en train de disparaître de notre société capitaliste, mondialisée, qui ne pense plus en temps de repos, mais en temps de veille. L'être humain n'aurait plus le droit, dans ce monde de machines de plus en plus performantes, ne serait-ce que de dire « aujourd'hui, je ne fais rien. Rien n'est pas le mot. Je fais ce que bon me semble, mais je me déconnecte de la pression de plus en plus forte pour que nous travaillions, consommions à toute heure. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours et quart par an. Nos docteurs vont nous dire, depuis leur transat, ce qu'ils en pensent de cette paresse qu'il faut reconquérir sans doute face à la tyrannie du disponible. Mabuse, House et Jekyll vont sortir de leur léthargie volontaire pour disserter sur ce sujet qui est loin d'être reposant. Allez, Mabuse, à vous l'honneur, comme d'habitude.
Ah, la paresse. Le sujet est tellement passionnant que j'ai eu instantanément l'envie de ne rien dire, mettant en pratique ce concept. En fait, comme je crois qu'il faut distinguer la flemme et la paresse, il est nécessaire d'en dire plus. La flemme, c'est avoir envie de ne rien faire, alors que la paresse, c'est faire uniquement ce que l'on a envie de faire. Il y a donc un lien entre l'envie, qu'elle soit affective, morale, sociale ou politique, et le fait de faire ou d'agir. Un vrai paresseux peut travailler 18 heures par jour sur un sujet, un dossier, une tâche, et négliger pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois, quelque chose qui ne lui prendrait que 5 minutes, parce que ça l'ennuie. Lafargue avait raison quand il réclamait le droit à la paresse sur le principe de la liberté individuelle face à la soumission collective au capitalisme triomphant de la révolution industrielle. La paresse, comme arbre de combat social, voilà une belle perspective. Vaut-elle le tag de Guy Debord peint sur un mur de Paris dans les années 50 et qui disait « ne travaillez jamais » sous-entendu « non à la soumission au système », équivalent à une compromission. Entre cette proposition radicale, qui ne laisse que peu de perspectives, et le droit à la paresse, je crois que, par paresse justement, j'ai choisi depuis toujours la seconde, par penchant naturel et par conviction. Elle satisfait mon égocentrisme et mon anti-autoritarisme, tout en préservant ma liberté d'agir comme je l'entends. Cela recoupe ma définition de la retraite dans laquelle je suis désormais installé et qui permet de dire non sans être obligé de dire pourquoi. Alors, pour résumer tout ceci, je dirais vive la liberté d'être paresseux.
Vive la liberté d'être paresseux selon notre docteur Mabuse. Si je me penche un peu sur mon côté gauche, j'aperçois le docteur Raoult qui sort de sa chaise longue.
Oui, je sors de mon sommeil. Bon, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Commandement divin. Mais ce n'est pas un commandement, c'est un châtiment. Ô dictature du tube digestif. Notre pain quotidien nous coûte notre quotidien. La morale montre du doigt la cigale fort dépourvue pour avoir chanté, pas celui qui se tue à la tâche. Lequel des deux a perdu son temps, sa vie ? Revendiquons le droit de vivre. Notre société condamne les je m'en foutistes paraissants, quand d'autres travaillent à leur place. Mais pas tous. Leur entier a plus de considération que le hérémiste. Question de niveau de consommation. Ce qui légitime le droit à la paresse, c'est quand travailler n'est qu'un moyen pour subsister ou seulement exister. Accordez-vous des moments de liberté. Paressez, mettez vos cerveaux en pilote automatique. Rêvez, imaginez. La paresse est source de créativité. Le seau, la roue, la brouette ont été inventés pour simplifier la vie, pas pour augmenter la compétitivité. Les bourreaux de travail et autres stakhanovistes qui s'épuisent au travail sont paresseux dans certains autres aspects de leur vie, affectives, sociales, sexuelles, psychiques, culturelles, spirituelles. Heureusement, ils ont les vacances pour corriger tout cela. Mais le droit de paresser n'est pas le droit de se reposer après avoir travaillé, mais le droit de ne plus se fatiguer. Nuance, on ne devrait jamais revenir des vacances. On revient parce que le travail nous les fait rater.
Voilà. Alors, il ne nous reste plus qu'à docteur. J'espère que vous avez apprécié ce petit texte de notre docteur House, qui me semble un spécialiste en effet ex-paresse. On va aller voir maintenant notre dernier docteur, le docteur Jekyll, qui lui, bah, je ne sais pas, il dort encore. Non, il est très bien éveillé, je le vois, il arrive.
Hein ?
Hein ?
Ah,
la paresse. Ah, putain, elle voit bien un mot d'escroc. Qui veut tout dire en ne disant rien. Dans la série, j'ai la flemme, j'ai pas envie. Encore que là, c'est la version négative de la paresse. Parce qu'il y a une approche nettement plus positive de la chose. Elle ne s'appelle pas la paresse, mais la fainéantise. À ne pas confondre. Je m'explique, comme dirait l'autre. Paresse et fainéantise sont deux facettes de la gestion de son temps. Le plus souvent, c'est en rapport avec la notion de travail. Alors analysons les deux concepts l'un après l'autre. La paresse, tout d'abord, elle convient aux aigris, aux ratés de la vie, aux besogneux. Pour des raisons X ou Y, le travail qu'ils effectuent durant une vie relève de la galère. Ils ne s'y épanouissent pas. Mieux, ils s'y épuisent. Alors pour les plus intellectuels, la fatigue qu'engendre le travail nécessite un temps de reconstitution de la force de travail s'apparentant au droit à la paresse. Ça a donné les congés payés et autres RTT. D'aucuns appellent ça les acquis sociaux. Alors que ce n'est que la préservation de la paix sociale vis-à-vis de cette vile multitude. Par contre, si vous prenez la fainéantise, elle relève d'un certain hédonisme. Ce qui revient à se demander constamment... Comment je pourrais faire ceci ou cela le plus vite et le mieux possible afin de ne pas perdre mon temps ? C'est l'efficacité dans le travail par la productivité maîtrisée. Cette fainéantise-là, elle convient aux optimistes, à ceux qui considèrent que leur travail n'a rien d'aliénant, bien au contraire. Elle ne cherche pas à maîtriser le temps court, celui de la journée, mais le temps long, celui d'une vie. Vous le comprenez donc, il ne faut pas confondre les torchons et les serviettes, la paresse et la fainéantise. Et prétendant faire partie de la deuxième catégorie, souffrez que je ne perde pas plus mon temps sur la question, j'ai franchement autre chose à foutre.
Ah ben voilà, ça m'aurait étonné que le docteur Jekyll n'ait pas un avis bien marqué. Alors maintenant on passe au petit débat, enfin si vous voulez bien y participer sans vous fatiguer de trop.
Non, moi,
m'abuse.
Moi je veux bien dire quelque chose, mais ça me fait penser à plusieurs petites choses. D'abord, je trouve qu'il y a un lien entre le concept de paresse et la religion. Par exemple, la paresse, c'est un des sept péchés capitaux.
Oui.
Donc, comme il y a tu ne tueras point, c'est-à-dire on met au même niveau la paresse, le meurtre, l'adultère, hein, tu ne commettras pas l'adultère, ou bien par exemple les protestants qui condamnent la paresse comme étant vraiment une tare rédhibitoire, et notamment, disent-ils, à l'époque de la réforme, celle des moines, qu'ils considèrent comme complètement nuisible dans la société.
Blandeur.
Et puis, je voudrais reprendre en plus une blague colonialiste qui disait pourquoi faire quelque chose aujourd'hui, ce que l'on peut faire à quelqu'un d'autre demain. Je trouve que c'est assez intéressant. Et puis surtout, cette chanson absolument extraordinaire qui disait « Aujourd'hui peut-être, ou alors demain ».
Ah oui, celle-là, elle est bien. C'était le papa de Sardou, ça, non?
C'était le papa de Sardou.
Et pour aller un petit peu plus loin, c'est pour ça qu'a été inventée la journée de la femme. Ce jour-là, tu dis à ta femme « Non, fais pas la vaisselle, tu la feras demain ».
Absolument. Oh, le Jekyll, toujours pareil. Hein.
Voilà.
Oh, elle est pas mal, celle-là.
Au mieux, si tu es faux cul, tu appuies sur le bouton du lave-vaisselle.
Ou faut pas que ce soit le jour du Yom Kippour, parce que ce jour-là, t'as pas le droit de travailler. Toucher. Même
absolument.
Pas d'appuyer sur un bouton. Hein.
Alors, la religion, en effet.
Moi, de toute façon, le 8 mai, je suis toujours malade.
Ah, c'est le journée de la femme, ça.
Justement. C'est pour ça que je suis malade. J'ai toujours la grippe, ce jour-là.
Ah, oui, d'accord.
Mais le côté religieux, j'aime bien.
C'est intéressant ce côté religieux.
À attaquer là-dessus, tu gagneras ton pain, machin. Et que c'est un châtiment. Et oui, mais le travail dans nos sociétés judéo-chrétiennes est un châtiment. C'est Adam et Ève, le péché, machin bidule, viré du jardin de l'Éden, et puis maintenant.
Va bosser.
Mais ce qui est remarquable.
Parce que dans le jardin de l'Éden, ils étaient tranquilles quand même.
Et du coup, le travail, par définition, est aliénant.
Bon, bien sûr. C'est le frein.
Par définition, oui.
Par définition. Et donc. Pour ne pas qu'il soit aliénant, encore faut-il y mettre, je disais, de la fainéantise. Mais il y avait, m'abuse, petite question de vocabulaire, on n'était pas tout à fait d'accord sur la définition des mots, mais on était d'accord sur les concepts. On ne mettait pas tout à fait les mêmes mots sur paresse, fainéantise.
Ah bah sans ça, vous ne serviriez à rien si vous étiez d'accord.
Non, mais la flemme
et
puis les choses comme ça. Mais au bout du compte, on disait sensiblement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque part. Une paresse négative et une paresse positive.
Mais un droit à la paresse, on le revendique.
Oui, mais non, mais celui-là, pour moi, est négatif.
Voilà, c'est ce que vous aviez dit dans votre droit à la paresse.
Oui, alors que le côté positif, c'est est-ce que je peux être paresseux politiquement?
Oui, et puis est-ce que je peux faire quelque chose, de quoi que ce soit, le plus vite possible et le mieux possible et le plus vite possible. Donc, je vais gagner du temps.
Ce qui est quand même curieux quand vous ne soulevez pas, là, c'est que quand même, quelque part, Le travail qui est justement le frein au droit à la paresse a été inventé par des gens qui eux-mêmes ne voulaient pas travailler. Parce que tu vois, dans toute organisation sociale, on a inventé le travail et à partir de ce moment-là, on a valorisé le travail justement pour pouvoir vivre du travail des autres.
Oui, ça commence à le système de la révolution industrielle, vous dites.
C'est pour ça que le droit à la paresse, hein, c'est rétablir en quelque sorte. C'est
une forme d'esclavage.
Servage. Mmh. Donc à partir de ce moment-là, le droit à la paresse, c'est ça, libérer.
Oui, mais même pas d'esclavage, parce que ça, ce serait quand même une.
Oui, si, c'est l'esclavage qui existe.
Non, ce serait une bonne idée, le retour de l'esclavage. Au moins, t'as plus de feuilles de paye, t'as plus rien du tout, t'es plus emmerdé, quoi.
Ça, c'est vrai. Tu peux supprimer les 35 heures, les RTT.
Alors qu'avec le salariat, il y a quand même un sérieux problème, d'ailleurs.
Il y a des contraintes.
D'ailleurs, je vous rappellerai que lors de la guerre de sécession, 1861-65, aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, une quasi-majorité ou une forte minorité de Noirs était contre l'abolition de l'esclavage. Parce que les mecs, ils n'étaient pas abrutis. Ils avaient compris qu'une fois qu'ils seraient libérés, ils deviendraient salariés de la Manufacturing Belt, c'est-à-dire dans le nord-est des États-Unis, et là, ils seraient surexploités. Or, l'esclave.
On leur demanderait des résultats très précis.
Il était exploité, l'esclave. Mais l'esclave, c'est un petit peu, moi je compare toujours l'esclave à une voiture. Si tu t'achètes une bagnole, ta bagnole, tu vas l'entretenir. Parce que si tu l'entretiens pas, ta bagnole, terminé, elle va aller à la poubelle et tu es obligé d'en racheter une autre. L'esclave, c'est la même chose. Alors que le salarié.
On peut changer.
Ah, mais tu t'en fous. Le mec, il meurt à la tâche, style Staline ou Goulag et compagnie. Et ben, c'est pas grave.
Ou les mineurs dans le nord de la France.
Ou actuellement en Turquie.
Mais ce qu'il dit, ça, excusez-moi, c'est que j'avais lu une étude où, justement, pendant la révolution industrielle, les ouvriers travaillaient plus de 12 heures par jour.
Oui.
Alors qu'en fin de compte, ils avaient fait une étude et les esclaves ne travaillaient que 9 heures.
Oui.
Et oui.
Dans les champs. Oui. D'abord, tu me dirais, bon, ils étaient sauvés par le soleil.
Ouais.
mais il n'empêche que.
C'est la révolution française bourgeoise qui a tout niqué. Il y avait 153 jours fériés par an du temps de l'ancien régime, là, Saint-Machin.
Sans parler du Moyen-Âge.
Oui, le Moyen-Âge
et compagnie.
Or, avec la loi, le Chapelier de 1790. Il n'y a plus de jours fériés, il n'y a plus de rien du tout. Quoi. Et après, ça va être la lente reconquête sociale de reconquérir
à quel prix
les dimanches, les machins, après les congés payés. Pour
8 heures par jour.
Il a fallu pratiquement attendre la fin des années 1950 pour retrouver le niveau de congé
de liberté,
qu'il pouvait y avoir avant de l'époque de l'Ancien Régime. Donc c'est vraiment la révolution bourgeoise pré-capitaliste qui a...
Non mais ce que dit Jekyll, moi je trouve très intéressant parce que effectivement c'est le fait d'avoir introduit le concept de citoyenneté et de liberté qui a introduit le principe du salariat. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps que la Révolution française fait ça, elle abolit l'esclavage que, bien entendu, Napoléon va se faire une joie de rétablir.
Mmh. Et pour terminer sur l'esclavage, je ferai remarquer que en Mauritanie, depuis 1960, donc indépendance de la Mauritanie, c'est la 7e fois que le gouvernement mauritanien abolit l'esclavage.
Ah, ils n'y arrivent pas.
Mais tout simplement parce que les esclaves ne veulent pas. T'as pas l'air con, t'es esclave au milieu du désert mauritanien. Et on te dit, t'es plus esclave, maintenant t'es libre. T'es libre de quoi? De crever?
Ouais, il n'y a plus personne. Faut ça, je comprends le concept.
Et donc, du coup, l'esclave, à la limite, le mec, il dit, non, je préfère continuer à avoir un maître, faute de trouver un patron, parce que dans le désert, il n'y a pas de patron, quoi.
Ça, c'est chouette.
Il doit quand même y avoir une autre solution que de choisir entre l'exploitation bourgeoise et l'esclavage.
Merci
à vous. En Mauritanie, difficilement.
Je les écoute tous les deux. Quoi.
Je comprends.
On revient là-bas.
Grâce à vos discours philosophiques, je viens de réaliser pourquoi, dans certains films, comme Autant on emporte le vent, il y a une bonne esclave qui parle de son notre bon maître. Je comprends l'expression notre bon maître avec l'explication.
Mais enfin, maintenant, Aous a raison. Quand même pas rétablir l'esclavage en France pour avoir le droit à la paresse, quand même.
Là, je crois que... Là, vous poussez le bouchon.
Des fois, ça
des dérives.
Dans la clinique, des fois, ça délire.
C'est là où on voit que House sur un coup comme ça, mais il a le blues.
Je suis quoi, le...
Il a le blues.
C'est normal, c'est les esclaves qui l'ont créé.
Notre clinique est une polyclinique et il y a un secteur psychiatrique qui n'est pas encore complètement exploité.
Oui, et je crois que d'ailleurs, une autre fois, nous irons dans ce secteur psychiatrique, peut-être bientôt. Mais je vous laisse développer quand même en un mot. Vous, votre impression sur les délires que vous venez d'entendre.
Ils m'ont fatigué.
Voilà. Aos est fatigué, il va retourner dans sa chaise longue se coucher. Jekyll n'est pas du tout fatigué, mais ça n'empêchera pas d'y retourner aussi.
Ah, moi, je dors déjà.
Voilà. Et enfin, Mabuse, alors lui, il réfléchit.
Une réflexion
encore.
Philosophique.
On arrive tout doucement à la fin de cette émission.
La prochaine émission, je propose qu'on délègue.
Ah oui,
qu'on fasse faire les chroniques par quelqu'un d'autre. Quoi.
Bah, vous envoyez trois de vos infirmières.
Voilà, parce que sinon ça va nous fatiguer, ça encore.
Voilà.
Ouais, je le sens bien.
Force.
Oui, bah écoutez, la mouche, elle est prête à tout. Elle a tout entendu dans cette clinique. Je ne suis pas à entendre quelque chose d'autre de près. On ne sait pas encore de quoi on va débattre.
Il faut le faire parler de la paresse un lundi.
C'est au début de semaine, faire parler de la paresse. Mais enfin, tout est possible dans cette clinique. Alors que, bah écoutez, mes chers docteurs, retournez à vos occupations.
Est-ce que tu me permets une remarque, je te signale que cette émission que nous enregistrons le lundi passe le samedi, c'est-à-dire en plein week-end.
Voilà.
Donc on ne peut pas rester à loisir.
Ouais, bon. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette émission est diffusée sur les ondes de Divergence tous les samedis à 12h10. Et bien écoutez, à samedi prochain donc, pour les toutes dernières nouvelles de demain.
Alors, quoi de neuf, docteur?
Notre route est droite. Mais la pente est forte.
La NSA espionnait aussi l'Union européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
On dénombre 3 264 500 demandeurs d'emploi.
L'armée a repris le pouvoir.
Quoi de neuf, docteur?
Je ne suis pas revenu à la mairie depuis 2 ans.
Quoi de neuf, docteur?
Alors, quoi de neuf, docteur ?